Bonjour. Du coup, comme ça a été annoncé, je vais parler de la souffrance. Du coup, avec des questions, du coup, la souffrance, comment on l'accueille quand elle vient dans notre vie? Et surtout aussi, comment accompagner ceux qui la vivent? Par exemple, dans le malheur de l'annonce d'un cancer, de la mort d'un proche ou même d'un fils, comment on réagit? Quand je vois des gens malheureux, que fait-on? Quand je vois des gens dans la pauvreté, la misère, dans la rue, qu'est-ce que je fais? Comment réagir? Du coup, je vais vous parler du livre de Job. Le livre de Job, c'est un livre de l'Ancien Testament, donc la partie avant la venue de Jésus. Ça fait partie de ce qu'on appelle les livres de sagesse. C'est des livres qui ne racontent pas vraiment une histoire historique, mais, enfin, bien qu'un petit peu, mais c'est surtout, ça donne des enseignements. Et contrairement, par exemple, au Proverbe ou à l'Ecclésiaste, le livre de Job, il ne fait pas que nous parler par des maximes ou des thèses. Il nous parle véritablement à nos cœurs, à nos tripes, parce qu'il nous parle de la souffrance. Et je pense que la souffrance, si on la vit pas, on peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et du coup, c'est pour ça que pour nous en parler, il nous parle d'une histoire, quelqu'un qui souffre beaucoup, qui s'appelle Job. Alors, déjà, pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que j'ai une relation un peu particulière avec. À 18 ans, quand j'étais ado, j'étais dépressif sous l'esclavage de la cigarette, de la mutilation. Et je pense que c'est en lisant ce livre que j'ai vraiment pris la décision de donner ma vie à Christ. L'enseignement que j'ai reçu, je ne sais pas, par une conviction un peu mystérieuse, j'avais à cœur de vous la rapporter. Cette conviction, j'espère que c'est l'esprit, et je le crois, mais... voilà. Donc pour en parler, je l'envoie. L'illustration de Léon Bonnat de Job, ça donne un peu le thème. Du coup, je vais commencer par la fin. En fait, je vais aborder ce récit en flashback, un peu comme dans un film où on voit la scène de fin, et après on est focalisé sur chaque personnage et on voit un peu leur histoire. Alors pourquoi? Déjà pour des ordres pratiques. Je vais vous parler d'un livre, j'ai qu'une prédication, il fait 42 chapitres, ce serait très long. La fin, du coup, c'est un bon moyen pratique parce qu'on voit chaque personnage et la réaction à Dieu dessus. Mais aussi parce que en lisant le livre de Job, c'est peut-être une chose qui est très dure à croire quand on commence par le début, qu'on lit chronologiquement, c'est que ça finisse bien. Du coup, commençons par là. Le texte.
Job répondit alors à l'Éternel. Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Téman et lui dit: Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Éliphaz de Téman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job deux fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils prirent leur repas auprès de lui dans sa maison. Ils le consolèrent et lui témoignèrent toute leur compassion pour les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or.
Ah, merci. Du coup, on va commencer par un personnage. Bon, déjà, je voulais faire plein de dessins, parce que j'aime bien dessiner, mais je n'avais pas eu le temps, du coup j'en ai fait qu'un, et je l'ai exploité à fond. Donc voilà. du coup, on va parler de Job, donc je l'ai dessiné là. Donc, au verset... Déjà, dans cette scène finale, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Au verset 1-6, Job reconnaît qu'il a parlé sans comprendre et reconnaît qu'il est tout petit devant la puissance et les merveilles de Dieu. Mais au verset 7 et fin du verset 8, Dieu affirme que Job a parlé de Dieu avec droiture. On peut se demander, qu'a dit Job ? Comment a-t-il pu s'emporter tout en parlant de Dieu avec droiture ? Et du coup, on va parler de son histoire. Job était riche. Certains commentateurs même disent qu'il était chef de tribu. Il était apprécié, respecté. Il avait beaucoup d'enfants. Et surtout, c'était l'homme le plus juste devant Dieu à cette époque. Mais un jour, dans l'assemblée de Dieu, le diable, ou dans le texte c'est Satan, l'adversaire, dit à l'Éternel, « Mais si Job est aussi bon, c'est parce que tu le combles de plein de bénédictions. Si tu lui enlèves tout ce qu'il a, et il finira par te maudire. » Et Dieu alors permit au diable de s'en prendre à Job. D'abord en prenant tous ses biens, sa famille, puis après il s'en prit à sa santé. Et du coup, en quelques jours, Job perdit tout. Ses fils, sa santé, sa richesse. Et il était du coup assis au milieu des cendres. À l'époque, là où on jetait les cendres, c'était un peu comme la décharge publique, c'est on jetait le feu. Du coup, il était là avec un ulcère purulent de la tête aux pieds. Alors, j'ai regardé un peu ce que c'était un ulcère purulent, j'ai vite arrêté. et il prenait un tesson de poterie pour se gratter. C'était vraiment quelque chose de fort et j'avoue que émotionnellement j'ai du mal avec ce passage. Pourquoi Dieu a permis au diable de s'en prendre à Job et j'ai beau le relire tout ça, j'ai un sentiment d'injustice comme si parce que je connais pas en fait tous les enjeux de l'univers. Je connais pas ce que ça représente, un débat entre Dieu et le diable. Et par ma raison, je peux qu'affirmer que Dieu avait ses raisons de le faire et que Dieu est juste dans tous les cas. Du coup, en l'espace de quelques temps, Job avait vraiment plus rien. Il était seul au milieu de cette décharge, et c'est là que trois de ses amis viennent pour le consoler. Mais voilà, on verra plus tard que c'est loin d'être une consolation pour lui. Je vais vous lire un passage pour vous montrer un peu la lamentation de Job, à quel point c'est allé loin. Donc c'est Job 3 au verset 1 à 10. Job prit la parole et se mit à maudire le jour de sa naissance. Il parla en ces termes. « Que périsse le jour où je fus enfanté et la nuit, qui a dit, un garçon est conçu. Ce jour qu'il soit changé en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne sur lui. Que d'épaisses ténèbres et l'ombre de la mort le réclament pour elle. Que des nuées pèsent sur lui. » Que des éclipses de soleil le chargent d'épouvante. Oh, que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'elle n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année et qu'elle n'entre point dans les comptes des mois. Que cette nuit-là soit stérile et que nul cri de joie n'y résonne jamais. Oui, cette nuit-là soit exercée par celui, cette nuit-là soit exécrée par celui qui l'a fait. Seconde, j'ai imprimé une page deux fois. Voilà. Ah oui, pardon, je reprends. Oui, que cette nuit-là soit exercée par ceux qui maudissent les jours et savent réveiller le grand monstre marin, que les ténèbres masquent ces astres du matin, oui, qu'elles attendent en vain la lumière du jour et qu'elles ne voient pas l'aurore s'éveiller pour n'avoir pas fermé le ventre maternel et n'avoir pas caché le malheur à mes yeux. C'est un passage quand même, je trouve très fort, de vouloir jusqu'à haïr sa propre naissance. Et dans ses lamentations, Job, il va jusque-là, mais jamais il ne maudira Dieu. Il va même jusqu'à accepter les malheurs. Le fameux verset « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il croyait fermement en la justice de Dieu. Que si ce qui lui arrive, arrive, c'est... si Dieu lui laisse ça, c'est que c'est juste. Et puis Dieu, après, à la fin, il va lui dire qu'il a parlé avec droiture. À un moment, dans sa colère, il va un peu s'emporter et va jusqu'à presque sous-entendre que Dieu est injuste. En fait, il va émettre deux hypothèses pour expliquer sa souffrance. Soit Dieu ne dirige pas le monde avec justice, soit pire encore, Dieu est injuste. Et c'est le fait d'avoir supposé cela, et non l'affirmer, c'est pour ça Dieu considère qu'il a parlé de lui avec droiture, qui va faire que Dieu, dans les derniers chapitres, va le reprendre et le fera reconnaître sa faute. C'est par des discours très beaux, je vous conseille. Et du coup, le reste après du discours de Job va porter à répondre aux accusations de ses trois amis. Vous savez, les trois amis que j'ai dit, qu'ils étaient loin d'une consolation pour lui. Oui, toujours pas. Je vais y arriver. Du coup, on revient à la scène finale. Au verset 7 et 8, Dieu est en colère contre ses trois amis, car ils n'ont pas parlé de lui avec droiture. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Donc, c'est ces trois amis-là. Éliphaz de Théman et ses deux potes, Bildad et Tsophar. Voilà. Donc, ces trois personnes sont allées réconforter Job et pensant sûrement bien faire, et c'était sûrement de bonne intention, ils les essayaient de faire de leur mieux, ils ont tenté de donner une explication de pourquoi Job souffre, pourquoi il lui arrive autant de malheurs. Et ils essayent progressivement de lui dire que s'il n'a rien fait, Dieu va rétablir sa situation, il n'a pas de raison de se plaindre. Et puis même s'il a fait quelque chose, il va se repentir et puis Dieu va le pardonner et va rétablir sa situation. Pour finir, en voyant l'échec des tentatives précédentes, ils affirment cette thèse. Dieu est juste. S'il t'arrive du mal, c'est que tu as fait du mal. Ou Dieu te rétablira, car Dieu fait périr le méchant et prospérer le bon. Il punit ceux qui font du mal et bénit ceux qui font du bien. Alors arrête de te plaindre. Par trois fois, Job va leur répondre que non. Il est intègre et droit, qu'il ne comprend pas sa situation. Il ne comprend pas pourquoi il souffre et il veut l'exprimer. Il n'a pas fait le mal. Et dans le prologue, et du coup on le sait nous qui avons lu le prologue, il n'a vraiment pas fait le mal. Mais par trois fois, les amis vont répondre que mathématiquement, s'il est juste, comme il le prétend, Dieu rétablira sa situation et il n'a aucune raison de se plaindre. S'il t'arrive des malheurs, c'est soit que t'as fait le mal, ou alors peut-être pas assez le bien, et en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Il est juste. Et voilà pourquoi Dieu est en colère contre eux. La grande faute des amis de Job est de ne pas admettre qu'on puisse se plaindre. Voire même de trouver ce qu'il nous arrive est injuste. Du coup, oui, qu'on puisse pas trouver ce qui nous arrive est injuste. Qu'il suffit de répéter « Dieu récompense le bien et punit le mal » pour encourager celui qui fait le bien et avertir celui qui fait le mal. Il ne faut pas se plaindre à Dieu parce que Dieu a toujours raison et on a toujours tort. Personne n'est parfait, alors pourquoi te plains-tu ? Mais pourquoi ont-ils vraiment dit ces choses ? Il y a une multitude de versets qui affirment ce qu'ils disent. Et c'est bibliquement correct ce qu'ils disent. Ils ont Dieu, qu'on regarde dans les proverbes ou les psaumes, on voit qu'il punit les méchants et bénit les justes. Mais du coup, où est-ce qu'est la faute ? Je pense que la réponse, c'est que cette thèse est vraie, mais nous dépasse complètement. Et elle ne se réalise jamais vraiment comme on peut l'imaginer. On n'a pas la justice de Dieu. Et c'est beaucoup plus complexe. Et je pense que si Dieu nous a donné la possibilité et le besoin de se plaindre à lui dans l'épreuve, de lui exprimer notre incompréhension de la situation, c'est qu'il est bon de le faire. Du coup, comment ça peut nous parler aujourd'hui ? Parce que bon, on n'est pas amené à faire la même erreur que les amis de Job. Non ? Du coup, je vais vous laisser raconter mon histoire. Et à quel point cela peut arriver vite et de manière insidieuse et peut faire beaucoup de dégâts. J'ai grandi dans une famille chrétienne, très chrétienne même, mon père pasteur. Et la vision qui m'a été transmise dans l'église où j'ai grandi était celle d'un Dieu dont la justice ferait que si tu viens à lui, tu seras heureux. Rien de mal à ça. C'est même, c'était une façon de motiver, nous on était les jeunes de l'église, il fallait les motiver dans la foi. Et d'un côté c'est vrai. Mais ça sous-entendait un petit peu, et en tout cas moi je l'ai compris comme ça, si tu viens à Dieu, tu n'auras pas de problème, tu auras une joie immense. Et du coup pour le contexte, dès mon plus jeune âge, je suis rongé par des angoisses, des dépressions, sans explication certaine. Pourtant j'ai une bonne famille qui m'aime, et du coup j'ai des parents et des grands-parents et même des cousins merveilleux, et je remercie vraiment Dieu pour ça. Mais cette maladie fait que moi, adolescent, en dépression, rongé par l'angoisse et les mutilations et les comportements autodestructeurs, je ne reconnaissais pas dans cette vision le Dieu qui m'accompagne. Je reconnaissais bien son existence. Je priais, je lisais la Bible, mais cette vision d'une vie avec Dieu qui serait que joie, quand on vient à lui, sous-entendait que moi, si je souffrais, c'est que je n'étais pas assez proche de lui. Que, au final, mes malheurs n'étaient principalement que de moi. Et que c'était, ouais, que ça allait principalement que de moi qui n'allait pas à Dieu, en fait. Alors que si, je faisais mon maximum. Et je ne comprenais pas comment un Dieu bon et qui même, tout puissant, il est vraiment tout puissant d'ailleurs, me laisse souffrir, comme ça. Et je me souviens d'un jour où j'étais dans un camp chrétien, Union Jeune pour ceux qui connaissent, et une jeune fille, voyant mes mutilations, m'a dit « Tu peux pas être chrétien et faire ça. » Alors en moi-même, je me suis dit C'est vrai, je suis pas chrétien. Ce Dieu qui m'est décrit ne peut pas être le Dieu que je vis. Alors je suis allé chercher ailleurs dans des religions, des philosophies un peu ésotériques, même pas mal, dans des branches ésotériques même variées, ouais, que des visions du monde qui décrivaient le monde tel que moi je le vivais, c'est-à-dire un monde sombre et terrifiant. Alors, voilà, je me souviens également d'une multitude de fois où, en parlant de mes problèmes à des personnes chrétiennes, on m'a promis la délivrance, si je priais, ou qu'on chasse un démon en moi, et bah, tout ça, ça n'a pas marché. Et même si ces chrétiens étaient bien intentionnés, et vraiment je pense qu'ils étaient peut-être pleins d'amour en me disant ça, comme ça réveillait en moi les amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar intérieur, qui m'accusent, en me faisant croire que me plaindre était illégitime. Alors de la même manière, je pense que nous devons nous garder de dire ce genre de choses à la légère. Et encore pire, accompagné de versets bibliques. Par exemple, ce que j'ai entendu, si tu souffres, c'est sûrement que tu n'as pas demandé la délivrance ou avec pas assez de foi. Parce que regarde, en Matthieu 21:5, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ou alors, c'est que tu n'as pas demandé à la bonne personne de prier pour toi. L'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 15 et 16, dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le délivrera et le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ces paroles, bien que justes, ne sont pas adaptés dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations. Alors si on les dit, je pense qu'il ne faut pas les dire à la légère et faisons preuve d'humilité face à la souffrance et surtout ne pas peut-être prétendre les causes de cette souffrance, on n'est pas Dieu, et qu'on soit attentif à ce que même inconsciemment, on n'est pas en train d'avoir les mêmes comportements que les amis de Job, et de ne surtout pas faire croire que se plaindre à Dieu est illégitime. En 1966, le psychologue social Melvin J. Lerner a décrit un biais cognitif. Donc un biais cognitif, c'est un raisonnement de pensée, une tendance dans le cerveau qui fait qu'on a des raisonnements fallacieux. Ça s'appelle l'hypothèse du monde juste, décrivant que on a tous une tendance sous-jacente à croire que la personne qui souffre mérite ça d'une manière ou d'une autre. Face à l'incompréhension, et je pense que notre cerveau n'aime pas l'incompréhension, du coup il va essayer de le combler, il va chercher un coupable. Et Dieu ne peut pas être coupable. Alors souvent, on a une tendance à mettre la faute sur la personne, qu'elle n'a pas assez prié, qu'elle n'a pas assez fait de bien. Et du coup, le coupable, est-ce que c'est le bon? Et même, est-ce qu'on peut savoir lequel c'est? Du coup, comment réagir face à la souffrance? On voit au verset 11 de notre texte que Dieu envoie pour consoler Job, sa famille, ses connaissances. Et en version de Semeur, il est dit « Ils le consolèrent et lui témoignèrent toute leur compassion pour leurs malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. » Pour les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Ce que Job avait besoin comme réconfort, je pense que c'est la compassion. Étymologiquement, qu'on souffre avec. qu'on l'accompagne dans la souffrance. Il n'avait pas besoin de personnes qui viennent lui dire que ses plaintes sont un manque de foi. Dieu n'a pas dit à Job pourquoi il souffrait. Mais il a envoyé des personnes pour l'accompagner dans la souffrance. Et pour revenir à mon témoignage, le réconfort immense que m'a apporté le livre de Job, à moi, ado 17 ans, rongé par la souffrance, et accusé par mes Eliphaz, Bildad et Tsophaz intérieurs, dans un camp chrétien, toujours le même, Union Jeune, où j'y allais tous les ans. Pendant une prière que je faisais avec d'autres jeunes, j'ai ressenti un truc fort, comme un rayon de soleil. Et j'ai prié, c'était l'une des premières fois où je priais vraiment avec des personnes sans adultes, enfin, vraiment avec de mon plein gré. J'ai dit à Dieu que dans ma vie, c'était le brouillard, que je ne voyais pas le soleil et que là, ce que je vivais, cette éclaircie, ce rayon de soleil, j'aimerais le vivre et je veux la vivre toute ma vie. Puis 2 semaines plus tard, j'ai reçu mon premier smartphone. Alors, aucun rapport, vous me direz, mais ayant aussi une forte dyslexie, je cumule un peu les trucs, moi, le fait de pouvoir grossir les lettres m'a permis de mieux lire et pour une raison que j'ignore, j'ai lu le livre de Job. Et je me suis senti compris. Enfin, un constat de la réalité qui me correspondait à ce que je vivais. Ça m'a fait un bien fou. Et enfin, je trouvais en la Bible non pas des réponses ou un mode d'emploi pour aller mieux, mais me sentir compris et légitime dans la souffrance que je vivais. Et là, ça m'a ouvert les yeux. J'ai pu voir que oui, le Dieu de la Bible est vrai et m'accompagne vraiment. Alors si tu vois quelqu'un qui souffre, la manière, je pense, la mieux de l'accompagner, c'est de souffrir avec lui. Reconnaître avec lui que sa souffrance est légitime. Et compatir vraiment. Et si tu souffres et que tu te sens seul, que personne n'est là pour te consoler, alors sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il s'est fait homme et a souffert avec nous. Il a souffert dans notre condition d'humaine. Il a vraiment compati avec nous. Je pense qu'il peut vraiment t'accompagner. Donc si on souffre, je pense qu'il faut venir à lui, qui connaît cette souffrance. Du coup, je pense qu'il y a 2 attitudes à ne pas adopter. Soit comme Job quand il s'est emporté, de dire que Dieu est injuste. C'est pas vrai. Dieu, il est juste. Et l'autre, c'est de dire que les plaintes sont illégitimes et que de toute manière, Dieu est juste, donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà. Pour en finir un peu, peut-être avec mon témoignage, je voulais dire que au final, je pense comprendre un peu pourquoi il m'a fait souffrir cela, me fait passer par toutes ces épreuves, parce que souvent, j'allais dans la rue, j'ai pu prier avec des SDF, je suis dans un service à l'hôpital psychiatrique et j'ai pu souvent témoigner de ma foi. Et je pense que c'était peut-être pour que je puisse comprendre les personnes qui vivent ça et les toucher. Mais ça, on ne peut pas savoir les plans de Dieu. Les personnes qui essaient de me donner des solutions ne pouvaient pas le savoir. Donc de la même façon, je pense que si on ne sait pas pourquoi une personne souffre, il ne faut pas essayer de lui donner des remèdes miracles, parce que nous, on sait le remède qu'il lui faut, mais de l'accompagner dans la souffrance. Ça n'empêche pas de pouvoir essayer de l'aiguiller, mais voilà. Surtout, ne pas lui dire que faut pas que tu exprimes ta souffrance, souris et tout ira bien. De toute façon, quand on est chrétien, il faut toujours être joyeux. Je pense que c'est pas vrai. On peut souffrir. Jésus lui-même a souffert. Et quand on regarde les psaumes, le psaume 88, c'est que de la misère. Et pourtant, c'est approuvé par Dieu. Voilà. Merci de votre écoute et je vais finir par la prière.